Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information au sommaire ce soir. Un dimanche en campagne pour Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste était à Marseille pour son premier meeting national. Fabien Roussel a défendu une France de la feuille de paye. Nous serons à Marseille dans un instant. La reine Elisabeth célèbre aujourd'hui ses 70 ans de règne et pour l'occasion, la souveraine de 95 ans a préparé l'avenir en souhaitant que Camilla, l'épouse du prince Charles, devienne reine consort. Le cyclone Batsirai a fait au moins 10 morts à Madagascar et des dizaines de milliers de déplacés. Le cyclone s'est affaibli, mais il s'accompagne toujours de pluies torrentielles. Dans ce journal également, la Tunisie où le Conseil supérieur de la magistrature refuse sa dissolution prononcée par le président Saïed et une victoire pour les associations de défense des animaux. La France interdit officiellement le broyage des poussins. Vos rendez-vous du 19h avec la page sport et au menu la victoire de l'équipe de France de rugby, 37-10 face à l'Italie pour son entrée en lice dans le tournoi des 6 nations, du football avec la Ligue 1 et les Jeux Olympiques de Pékin. Et puis notre rendez-vous du dimanche 19h, c'est mon actu, Sandrine Houdin et le témoignage très émouvant de Simone, 80 ans, qui a très peur un jour de se retrouver en EHPAD. La météo, attention au vent sur le sud-est, la Haute-Corse en vigilance orange, Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. À 19h30, les petits bateaux, Noël Bréham.
Je m'appelle Nina, j'ai 5 ans et je voudrais savoir pourquoi les requins sont méchants.
Noël Bréham, les petits bateaux, après ce journal.
France Inter.
L'affiche politique de la campagne ce dimanche est à gauche avec le premier meeting national aujourd'hui à Marseille de Fabien Roussel, le candidat communiste à l'Élysée, devant plus de 3000 sympathisants agitant le drapeau rouge du Parti communiste français. Fabien Roussel a défendu la France du salaire et de la feuille de paye. Fabien Roussel a détaillé pendant plus d'une heure ses mesures pour le pouvoir d'achat avec des formules visant Emmanuel Macron et qui ont fait mouche dans le public. Victoria Coussa, vous avez suivi ce meeting.
Oui, et si on s'appuie sur l'intensité des applaudissements, les rires et le remplissage de salles, on peut parler d'un pari réussi pour Fabien Roussel, qui avec le sens de la formule promet une France de la fiche de paye. Il y a des phrases simples, percutantes, de l'humour aussi quand il tacle Emmanuel Macron.
Qui coûte cher ? C'est sa théorie du ruissellement. Eh bien moi, je vous propose une autre théorie, le roussellement. Ça va faire jaser ça, le roussellement pour irriguer l'économie réelle, lutter contre la vie chère. Rendre le pouvoir d'achat aux Français.
Veste de costume, chemise blanche, mais pas de cravate. Sur scène devant plus de 3000 militants, certains debout, faute de place. Le candidat communiste vit son discours des mèches, lui tombe même sur le front à plusieurs reprises. SMIC à 1500 euros net, permis gratuit pour les moins de 25 ans. Il oppose les riches qui coûtent cher à ceux qui rêvent de jours heureux. Avec une spéciale dédicace aux enfants, je reprends ces mots. Avec moi, fini les devoirs à la maison, lance-t-il. Son but, que les écoliers intéressés aillent tirer la manche de papa ou maman pour voter Roussel, plaisante le député du Nord, qui joue la carte du candidat du peuple.
De son côté, Anne Hidalgo était à Lille, où elle était reçue par la maire, Martine Aubry, l'un des soutiens les plus affirmés de la candidate socialiste Anne Hidalgo. Et Martine Aubry, toutes deux fans de foot, doivent assister ce soir, côte à côte, au stade Pierre-Mauroy, au duel entre le LOSC et le PSG. Patrick Balkany, convoqué demain à 10h par la procureure d'Evreux, après la révocation de son placement sous bracelet électronique par la justice, une mesure qui ouvre la voie à une incarcération. Isabelle Balkany, son épouse, est aussi concernée par cette décision, mais elle a été hospitalisée jeudi dernier après une tentative de suicide. Les pompiers sont intervenus aujourd'hui à la centrale nucléaire d'EDF de Cruas-Meis en Ardèche pour éteindre un départ de feu. L'incendie a été provoqué par l'échauffement d'une gaine de ventilation dans une partie non nucléaire des installations. Le départ de feu a été vite éteint et selon EDF, cet incendie n'a pas de conséquences sur la sûreté des installations et sur la production de la centrale. À l'étranger, la reine Elisabeth II célèbre aujourd'hui ses 70 ans de règne et pour cet événement historique, la souveraine de 95 ans a renouvelé son engagement à servir les Britanniques tout en réservant une surprise à ses sujets. Dans un message hier à l'occasion de son jubilé de platine, la reine Elisabeth II a fait part de son souhait sincère que Camilla soit connue comme reine consort lorsque le prince Charles, son époux, 73 ans, accédera au trône. Jusqu'à présent, la reine ne s'était jamais exprimée sur le sujet et réaction de londoniens au micro des 2020.
Il était inévitable que Camilla devienne reine consort plutôt que princesse consort. C'est la personne que Charles aime depuis qu'il est jeune homme. Il va devenir roi et il a le droit de choisir qui il veut comme consort. Bon, je dois admettre que je fais partie des rares personnes qui n'aimaient pas Diana. Je ne la supportais pas. Et Charles a toujours aimé Camilla. C'est dommage que son père l'ait incité à se marier avec quelqu'un d'autre.
Voilà Tony, un londonien avec Emmeline Vint. Au Maroc, les funérailles du petit Ryan, 5 ans, auront lieu demain. Le petit garçon, coincé pendant 5 jours au fond d'un puits, a été retrouvé mort hier soir par les sauveteurs. Un drame amplifié par les réseaux sociaux qui a suscité une avalanche d'émotions dans le monde entier. Le pape François, vivement ému lors de la prière de l'Angélus au Vatican aujourd'hui, a salué tout un peuple marocain qui s'est rassemblé pour sauver Ryan. Ils ont tout tenté, malheureusement, il n'a pas survécu, a réagi le pape François. La crise en Ukraine, et alors qu'Emmanuel Macron se rend à Moscou demain pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine, les États-Unis ont déployé 3000 soldats en renfort en Europe aujourd'hui et ils affirment qu'ils n'envoient pas des troupes pour déclencher une guerre contre la Russie. La nuit dernière, le renseignement américain a lancé un avertissement estimant que la Russie prépare une invasion de grande ampleur en Ukraine. De son côté, l'Ukraine relativise un risque d'invasion russe. Les chances de trouver une solution diplomatique sont supérieure à celle d'une escalade, selon la diplomatie ukrainienne. Sur place à Kiev, Stéphane Zurand.
Alors qu'une nouvelle fois, les responsables et les médias américains sonnent l'alarme, l'entourage du président Volodymyr Zelensky a affirmé que les chances de trouver une solution diplomatique étaient considérablement supérieures à celles d'une nouvelle escalade. Pourtant, un frisson continue de passer sur les chines des Ukrainiens, car les sources de renseignement ouvertes confirment que ce week-end, l'armée russe a acheminé de nouvelles brigades tactiques en Biélorussie, à vol d'oiseau, à 300 km de Kiev. Dans la capitale ukrainienne, on craint le scénario d'une provocation, car les républiques séparatistes autoproclamées de Donetsk et de Lugansk se mettent à diffuser massivement de fausses informations selon lesquelles les Ukrainiens bombardent leur territoire, des faits qui ne sont pas confirmés par les observateurs internationaux. Enfin, ce dimanche, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré qu'en cas d'escalade dans le Donbass, Moscou et Minsk apporteraient une réponse commune, militaire et énergétique, un signe qu'on est encore très loin de l'apaisement. Stéphane Siouan, à Kiev, pour France Inter.
Au moins 10 personnes sont mortes lors du passage du cyclone tropical Batsirai à Madagascar. Près de 50 000 personnes ont été déplacées. Le cyclone a touché terre sur la côte centre-est du pays la nuit dernière. Il perd de la puissance, mais il s'accompagne toujours de pluies torrentielles et les dégâts sont considérables. Sur place à Madagascar, Laure Verneau.
C'est dans la ville de Mananzar que le cyclone Batsirai a frappé en premier hier à 20h. Des rafales de vent à 235 km/h se sont abattues sur la ville jusqu'au petit matin. Voitures envolées, bâtiments en béton dévastés. Selon la gendarmerie sur place, Mananzar est détruite à 80%. Actuellement, les secours sont encore en train d'évacuer les habitants piégés par les eaux dans leurs maisons. Le fleuve et la mer continuent de monter. 3000 personnes sont dispatchées sur 9 sites d'hébergement où la nourriture manque. Les gens utilisent de l'eau impropre à la consommation car il n'y a pas assez d'eau potable. Pour l'instant, la mer est trop agitée pour les vedettes des sauveteurs. La route est encore coupée et les vents trop violent pour des hélicoptères. La gendarmerie espère des renforts par route dès demain. Madagascar, Laure Verneau, France Inter.
L'annonce a déclenché plusieurs manifestations aujourd'hui en Tunisie. Le président Saïd Kaïs Sayed a décidé de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature. Le président Sayed, qui s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet dernier, accuse le CSM, organisme indépendant et chargé de nommer les juges, d'être partial et au service de certains intérêts. L'annonce a été faite dans une vidéo diffusée en pleine nuit et cette dissolution suscite autant d'inquiétudes pour l'état de droit, même si la décision a été applaudie dans les manifestations à Tunis. Mais ce soir, le Conseil supérieur de la magistrature annonce qu'il refuse la dissolution. Sur place à Tunis, Maureen Mercier.
Le Conseil supérieur de la magistrature appartient désormais au passé. Déclaration cette nuit du président qui choisit cette date hautement symbolique du 6 février, celle des commémorations de l'assassinat de Chokri Belaïd, une des figures les plus importantes de la gauche tunisienne. Il y a 9 ans, jour pour jour, ce militant laïque est assassiné. Le parti islamiste Ennahda est pointé du doigt, jamais inquiété. Pour Kaïs Sayed, la faute au Conseil suprême de la magistrature, gangréné par la corruption et les islamistes. Parmi les manifestants venus se recueillir et réclamer justice, les réactions sont partagées. Shams, lui, soutient Qaïs Saïed. Pour lui, dissoudre le Conseil de la magistrature est un mal nécessaire.
Mal radical, mesure radicale. Nous n'avons pas le choix.
Qaïs Saïed, surnommé Monsieur Propre par ses partisans, se présente en homme intègre qui nettoiera le pays de la corruption. Au milieu de la manifestation, Henda, 64 ans, sort de ses gonds.
Moi, j'ai rien à foutre, j'ai rien à battre avec l'honnêteté. Vous êtes propre, vous n'avez pas volé de l'argent. Ça ne suffit pas pour être président. Il est malade de pouvoir. Je suis très inquiet.
Après le gouvernement, le Parlement, Qaïs Saïed met donc la main désormais sur le pouvoir judiciaire. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
C'est une première victoire pour les associations de défense des animaux. La France interdit le broyage des poussins mâles. Le décret a été publié aujourd'hui au Journal officiel. On estime qu'environ 300 millions de poussins sont tués chaque année dans l'Union européenne, dont 50 millions en France. C'est donc la fin des poussins mâles broyés ou gazés dès leur naissance. Mais le gouvernement laisse aux élevages jusqu'à la fin de l'année pour changer leurs pratiques. Les précisions de Margot Kefelec.
Tenir ce calendrier, c'est un véritable challenge pour Philippe Juvin, président de l'interprofession de l'œuf.
Ça va dans le sens de ce que l'on souhaitait faire. Simplement, le ministre a mis un calendrier qui est un petit peu juste à atteindre.
La filière, qui se prépare depuis 2018 à cette mesure, a un an pour mettre en place l'ovosexage, une technique qui permet de tuer le mâle dans l'œuf alors qu'il est encore un embryon.
On est sur des technologies nouvelles. Ça nécessite des mises au point dans les pratiques et dans les réglages de toutes ces machines. Et donc, il faut un peu de temps.
Une méthode qui a aussi un coût, entre 47 et 50 millions d'euros par an, selon la filière, qui est en pleine discussion pour que les prix se répercutent le moins possible sur les consommateurs.
Ce que l'on recherche, bien évidemment, c'est que le prix de l'œuf reste un prix abordable, mais il faut trouver le moyen de le répercuter pour que la filière ne le prenne pas à sa charge elle seule. Elle ne le peut pas aujourd'hui, compte tenu d'un contexte économique très difficile.
L'interprofession réclame maintenant une harmonisation des règles européennes pour ne pas souffrir de concurrence déloyale.
Margot Kefelec, c'était l'une des chaînes de télévision les plus connues au monde. La chaîne d'information américaine CNN, elle est en perte de vitesse. Son patron, Jeff Zucker, 56 ans, vient de démissionner. Il n'a pas rendu public une liaison avec la directrice marketing de la chaîne. CNN s'était repositionné en contre-pouvoir autoproclamé à Donald Trump. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de Joe Biden, les audiences sont en chute libre. À Washington, Sébastien Paour.
Presque 40% de téléspectateurs en moins l'an dernier par rapport à 2020, quand Donald Trump était encore à la Maison-Blanche. La chaîne, créée en 1980 par Ted Turner, ne croyait pas en lui lorsqu'il s'est lancé en politique avant la présidentielle de 2016. Elle misait tout sur Hillary Clinton, s'est positionnée pro-démocrate, là où Fox News était très conservatrice, puis a passé 4 ans à dénoncer les erreurs ou les mensonges du 45e président sans filtre. Un choix payant qui lui a permis de la distancer, mais depuis que Joe Biden a pris place dans le bureau ovale, la chaîne d'Atlanta ne fédère plus et se retrouve en troisième position sur le podium. 3 fois moins de téléspectateurs que Fox. Même MSNBC lui est passé devant. Ajoutez à cela le soutien affiché de son présentateur vedette, Chris Cuomo, à son frère, gouverneur de New York, accusé de harcèlement sexuel. Les deux ne sont plus en poste aujourd'hui. Et voilà l'un des principaux actionnaires du futur propriétaire Discovery qui prévient. CNN va devoir revenir au journalisme qu'elle pratiquait à ses débuts. Des faits davantage qu'une opinion. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
19h13 sur France Inter. La page sport de cette édition. Bonsoir Fabrice Abgral.
Bonsoir.
Et le sport, on démarre avec le rugby. L'équipe de France disputait cet après-midi son premier match du tournoi des Six Nations et victoire des Français.
Entrée en matière réussie en effet pour le 15 tricolore, facile vainqueur de l'Italie, 37 à 10. Bonsoir Fanny Lechevestrier.
Bonsoir Fabrice.
Au Stade de France. Alors des Français accrochés dans un premier temps, avant que les tricolores ne l'emportent finalement logiquement, même si la copie n'a pas été parfaite.
Oui, on va dire qu'on a vu une équipe de France en phase de rodage hein, qui n'a pas encore enclenché la vitesse supérieure. Des Bleus indisciplinés, notamment en première période, trop brouillons, parfois voulant conclure trop vite aussi. Alors on mettra cela sur le compte de la pluie qui tombait de rue aujourd'hui, du manque de match aussi de certains joueurs comme Antoine Dupont, Romain Tamac. Mais il faut également souligner la très bonne défense et résistance des Italiens qui ont vraiment progressé dans ce secteur. Mais c'est vrai qu'il faudra clairement hausser le niveau de jeu pour espérer gagner le tournoi. Après, les Bleus, vous le savez, nous ont souvent habitués à des matchs laborieux face aux Italiens et puis à monter crescendo dans la compétition. Là, on le rappelle, ils ont assuré l'essentiel, la victoire, le bonus offensif et tout le champ des possibles qui va avec.
Merci Fanny, en direct du Stade de France. Alors sur cette victoire, la réaction de l'ailier Gabin Villiers, auteur de 3 essais et élu homme du match.
C'est toujours ces matchs un peu pièges et en plus on commence à chaque fois par l'Italie, donc on se doit d'être au niveau dès la première journée et toujours pareil, ça valide quand même 2 semaines de travail et le score est là, le bonus est là, donc on va pas cracher dessus et c'est très positif pour la suite et bien sûr qu'on va travailler sur tous ces petits défauts et toutes ces petites choses à travailler pour être fin prêt pour l'Irlande parce qu'on sait que ça va être un très gros match et voilà et qu'on peut jouer le 6 Nations sur ce genre de match.
La réaction de Gabin Villiers sur France Télévisions. Alors le prochain match des Français, ce sera samedi prochain, toujours à domicile au Stade de France, face à l'Irlande, vainqueur hier du Pays de Galles, tenant du titre, 29-7.
Un dimanche de sport dominé également par le football avec la suite et la fin de la 23e journée de Ligue 1.
Avec 7 matchs au programme aujourd'hui, 6 sont terminés et la surprise, c'est la défaite de Nice, dauphin du PSG, battu à domicile par Clermont 1-0. Contre-performance qui permet à Marseille, vainqueur d'Angers vendredi 5-2, de conserver du coup la 2e place devant les Niçois, désormais 3e. Strasbourg, victorieux de Nantes 1-0, reprend la 4e place et Rennes la 5e, après avoir battu Brest 2-0. Monaco, vainqueur hier de Lyon 2-0, reste 6e. Écrasant succès de Reims sur Bordeaux 5-0, 0-0 entre 3 et Metz. Enfin, Lorient a dominé Lens 2-0, victoire précieuse des Bretons qui sortent de la zone de relégation et qui laisse la dernière place à Saint-Étienne, pourtant vainqueur hier de Montpellier 3-1. Le dernier match de cette 23e journée aura lieu ce soir à 20h45. Le PSG se déplace à Lille, le champion de France en titre, 11e du classement. Jocelyn Gourvennec, l'entraîneur de Lille, se méfie du leader parisien en quête de rachat après son élimination en Coupe de France.
Après, on joue une équipe qui est, quoi qu'on veuille en dire, est très forte. Elle est très critiquée, mais elle est aussi très forte. Je rappelle qu'elle a perdu que 3 matchs cette saison. Ils lâchent pas beaucoup de points en route. Et même si parfois ils sont peut-être pas aussi dominateurs qu'ils ont pu l'être à un moment donné, ça reste une équipe très forte. Évidemment qu'il faudra qu'on soit très très bon, à la fois pour bien défendre sur eux parce qu'ils ont beaucoup de talent, ils ont des joueurs clés, être intelligent et juste, surtout quand on a le ballon, parce que on va nous aussi avoir des situations.
Et Lille-PSG, coup d'envoi 20h45. S'ils s'imposent, les Lillois remonteront à la 7e place du classement.
Le football, dominé ce soir aussi par la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, elle oppose à 20h le Sénégal à l'Égypte, à Yaoundé au Cameroun, le pays organisateur.
Et les Égyptiens visent un 8e titre. Le dernier, c'était en 2010. Les Sénégalais, eux, un tout premier trophée après 2 finales perdues en 2002 face au Cameroun et en 2019 contre l'Algérie. Les Sénégalais veulent donc entrer dans l'histoire de cette compétition qui leur a jamais souri, à l'image de Kalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais de Naples.
C'est des rêves à avoir, c'est une image qu'on doit avoir dans le coin de nos têtes, parce que c'est comme ça qu'on réalise les rêves. Après, on sait que ça va être un match très disputé. L'Égypte mérite sa place, l'Égypte a prouvé qu'en battant des grandes nations africaines. Mais on a à cœur de bien figurer, de faire un grand match et de remporter ce trophée qui nous échappe depuis de nombreuses années.
Sénégal, Égypte, à Yaoundé, coup d'envoi à 20h. Et avant d'aborder les Jeux de Pékin, un petit dernier mot de tennis. Surprise au tournoi de Montpellier, le Kazakhstanais Alexander Bublik, 35e mondial, s'est offert son premier titre en remportant l'Open Sud aux dépens du numéro 3, Alexander Zverev, l'Allemand, en 2-7, 6-4, 6-3.
Et justement, deuxième jour de compétition aujourd'hui aux Jeux d'hiver de Pékin. Pas de médaille pour la France.
L'énorme déception, c'est en ski de bosse aujourd'hui avec Perrine Laffont, la championne olympique en titre, est passée à côté de sa discipline. Elle a terminé 4e. Perrine Laffont aujourd'hui n'a pas supporté la pression de l'événement.
Les Jeux, ça reste la course d'un jour et malheureusement, sur cette journée, j'ai pas réussi à me lâcher comme je l'aurais voulu. Ça a été un petit peu la lutte tout au long de la soirée et c'est pas forcément les favoris qui gagnent sur les courses d'un jour et encore aujourd'hui ça en est la preuve. J'ai eu le sourire tout au long de l'événement et j'ai profité à fond de ces jeux. Mais voilà, j'ai été heureuse pendant tous ces jeux et c'est ce que m'avait dit ma maman aussi. Prends plein de souvenirs et éclate-toi et c'est tout quoi.
Voilà, Perrine Laffont, 4e. Et puis, petit contretemps, Fabrice, en ski alpin, la descente homme a été reportée.
Reportée à demain, 5h du matin, heure française. L'épreuve reine du ski alpin a été annulée aujourd'hui en raison du vent trop violent. Les organisateurs ont jugé que les conditions étaient trop dangereuses pour les skieurs. La descente, messieurs, sera située la nuit prochaine entre les 2 manches du géant féminin. Tessa Worley vise le podium et en priorité la plus haute marche. La double championne du monde n'a jamais décroché une médaille olympique. C'est pour elle à Pékin sa dernière occasion, mais elle ne veut pas se mettre de pression.
Je m'éclate sur les pistes et je pense qu'en effet, ça se voit dans mon ski et ça se voit sur les chronos. Je crois que c'est vraiment la bonne manière de fonctionner pour moi, de pouvoir me faire plaisir, d'être à l'attaque. C'est quelque chose qui me permet de skier complètement relâché, de m'exprimer à 100%, de ne pas craindre de faire d'erreur ou de faire tel ou tel résultat. Voilà, ne pas penser à tout ça et simplement skier. Voilà, ma carrière est faite. C'est du bonus. Il faut savoir profiter de ces instants. Je crois que je m'en rends compte de la chance que j'ai d'être ici.
Alors le géant d'âme, c'est la nuit prochaine. Première manche à 2h30 heure française, la deuxième manche à 7h30. À suivre aussi demain, le ski freestyle avec Tess Le 2. Et si c'était elle, la future star française de ces jeux, Tess Le 2 à 20 ans, et elle vise deux titres olympiques, dont un dans l'épreuve du Big Air, un saut unique sur un tremplin. Jérôme Val, notre envoyé spécial à Pékin, l'a rencontré.
Elle a le visage encore poupon sous une épaisse chevelure blonde, un sourire qui ne la quitte jamais, mais ne vous fiez pas aux apparences. Tess Le 2 est une machine sur la piste, si bien que la skieuse de la Plagne arrive à Pékin avec une étiquette grand format de favori pour les deux concours où elle sera alignée, le Big Air et surtout le slopestyle.
Je suis dans l'optique de faire des choses nouvelles qu'on n'a jamais trop vues en ski freestyle féminin. J'ai envie de pousser cette discipline et de la monter dans la lumière, quoi.
En 2018, en Corée du Sud, elle était âgée de 16 ans, à l'époque la plus jeune de la délégation française. Tess Le 2 avait été éliminée dès les qualifications, un traumatisme dont elle a eu du mal à se relever.
Dégoûtée du ski, dégoûtée de la compétition, j'ai cru que j'étais passée à côté de la chance de ma carrière, que j'allais plus jamais réussir à faire des résultats. J'ai perdu toute confiance en moi, ça a été super dur, j'ai pas touché à une paire de skis pendant 8 mois après les JO. Mais je pense qu'aujourd'hui ça m'a rendue encore plus forte et je sais qu'il n'y a que le ski qui compte dans ma vie.
Aujourd'hui, Tess Le 2 est prête pour la consécration. Il y a deux semaines, lors des X Games, le grand rendez-vous américain du ski freestyle, elle a ramené deux titres en réalisant notamment un 1620 degrés 4 tours et demi, une figure qu'aucune skieuse n'avait encore réalisée. Elle a réédité son exploit cette semaine à l'entraînement en Chine.
Le ski freestyle, mais aussi le ski alpin et encore le biathlon. C'est demain au programme avec l'épreuve individuelle femmes. Quatre Françaises au départ pour autant de chances de podium avec Anaïs Chevalier, Julia Simon, Justine Breza et Anaïs Bescon.
La page sport complète avec Fabrice Abgrane. Merci.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine et on ouvre la page agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient avec beaucoup de rendez-vous à la page diplomatie et internationale. Mardi, Emmanuel Macron sera reçu à Kiev par le président ukrainien Zelensky. La veille, le président français aura eu un entretien avec le président russe Vladimir Poutine. Mais avant, lundi, le président Joe Biden reçoit le chancelier allemand Olaf Scholz pour rassurer Washington sur le soutien allemand dans la crise ukrainienne. Sur l'agenda judiciaire maintenant, l'ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, incarcéré depuis 2 ans, saura demain s'il peut sortir de prison. Et puis mercredi à Angers, devant le tribunal correctionnel, les constructeurs vont devoir s'expliquer sur l'effondrement d'un balcon en octobre 2016 qui avait provoqué la mort de 4 étudiants. Mercredi également, au procès des attentats du 13 novembre, le principal accusé, Salah Abdeslam, sera interrogé pour la première fois sur le fond du dossier. La campagne présidentielle la semaine prochaine avec un meeting de Yannick Jadot à Rennes mardi. Vendredi, Marine Le Pen présente ses propositions sur la défense à Toulon et dimanche, Valérie Pécresse tient son premier meeting au Zénith à Paris. Sur l'agenda à noter mercredi, le début du sommet mondial de l'océan à Brest à l'initiative d'Emmanuel Macron. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement seront là pour la conclusion du sommet vendredi aux côtés du président français. De nombreux sujets devraient être abordés et les enjeux, Célia Kiré, sont cruciaux.
C'est le premier sommet mondial consacré uniquement à l'océan. Le président français a été convaincu de l'importance du sujet par les scientifiques. Sans l'océan, qui recouvre les deux tiers de la planète, on ne pourrait pas survivre, estime-t-il. Or, cet océan est sous pression, réchauffement, surpêche, pollution. Parmi les urgences soulignées par les ONG, il faut en priorité créer des règles pour protéger la haute mer, cette partie de l'océan qui n'appartient pas aux États, une zone de non-droit qui devient parfois une jungle. Mais les négociateurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce sujet depuis 10 ans. Un traité de gouvernance de la haute mer verra peut-être le jour en mars. Autre sujet important, la création d'aires marines protégées qui devrait permettre de sanctuariser une partie de l'océan. L'ONU vise 30% de la planète sous protection d'ici 2030, mais des ONG estiment que le cadre est encore insuffisant. La France attend également des engagements de la part des armateurs pour réduire la pollution maritime. Des ONG demandent enfin la suppression de certaines subventions à la pêche, des milliards de dollars engagés par les États et pourtant néfastes à la biodiversité.
Et on terminera la semaine avec les victoires de la musique vendredi et la finale du Super Bowl de football américain dimanche à Los Angeles. On va entendre maintenant un témoignage bouleversant. C'est mon actu, Sandrine Houdin. Micro ouvert ce soir à Simone, 80 ans. Elle vit actuellement dans une résidence pour personnes âgées autonomes à Lucé, près de Chartres. Simone, octogénaire énergique, qui encore récemment jouait au foot, lutte aujourd'hui contre une grave maladie. Le scandale de l'affaire des EHPAD d'Orpea et l'explosion des appels au 3977, le numéro dédié à la maltraitance des personnes âgées, l'a terrifiée. Que faire si elle perd ses forces? Rien que d'entendre parler d'EHPAD, j'ai la boule au ventre, dit Simone. Témoignage au micro de Sandrine Houdin.
On voit à la télévision, qu'est-ce qui te passe? Je me demande si demain ça va pas m'arriver. Demain je vais peut-être rentrer là-dedans et voilà qu'est-ce qu'on va faire. Moi je viens d'être atteint d'un cancer, ça me fait peur moi. Moi j'ai la peur, il y a que l'argent qui doit compter, je sais pas si c'est un bénéfice pour eux d'avoir des gens et pas de s'en occuper, mais qu'on en vienne à des choses comme ça au 21e siècle. C'est une honte. Qu'est-ce qu'on en fait des vieux qui sont malades? Qu'est-ce qu'on en fait? On attend qu'ils meurent? Faudrait pas vieillir, mais on n'a pas le choix. Hein. Tous les ans, on prend un an. Hein. Ils s'en foutent. Ils ont autre chose à gérer, leur portefeuille, déjà une. Hein. Puis, vous savez, ça ne doit pas leur faire mal au cœur. Hein. Moi, je vis avec 1000 euros. Et eux, hein, ces petits vieux, ils en ont eu besoin. Ils ont versé. Et puis, là, d'un seul coup, ils ont vieilli. Ben, on s'en fout. Parce qu'ils rapportent plus. Hein. Ils en font des légumes. Voilà, on s'en fout. Hein. On vous laisse de côté. Crever. Hein, ils les enterrent là, les petits vieux ils meurent, et puis c'est tout. On s'en fout, mon Dieu. Je sais pas si ces gens-là ils dorment la nuit, je sais pas.
Je vous sens ému.
Oui, ah oui, ça fait mal. Et je vous dis, dans 3 semaines, 1 mois, on n'en parlera plus des EHPAD. On n'en parlera plus. Allez hop, et ça continuera. Mais il faudrait pas que je sois toute seule, hein, un coup de gueule, il en faudrait plusieurs. Il faudrait remonter les petits vieux qui ont pas mérité ça. Ils ont travaillé toute leur vie, c'est dégueulasse, c'est le terme. C'est un problème de société, je trouve, moi. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Se flinguer par des médicaments, par n'importe quoi.
Flinguer?
Oui, pour débarrasser le monde.
Vous avez les larmes aux yeux?
Bah oui, parce que j'aimerais mieux que d'être maltraité dans un EHPAD. De me liquider.
Vous liquidez, Simone?
Oh oui. Si un jour je peux plus rien faire, me mettre dans un EHPAD, pourquoi faire? Pour pas me changer la culotte tous les jours, bah j'ai mieux être partir du monde. Puis voilà.
Simone, 80 ans, avec Sandrine Houdin, c'est mon actu. Et puis je vous signale ce rendez-vous ce soir sur France Inter après les petits bateaux pour le 32e prix des auditeurs du Masque et la Plume. Annonce du palmarès de vos films préférés de l'année à 20h par Jérôme Garcin. Au générique de cette édition, Jenab Sangaré et Ludovic Asselot. Merci. Merci à tous les deux en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal avec Anne Patinec à la rédaction en chef assistée de Swad Bellani et Rachid Zourdani. Un grand merci à l'équipe et merci à vous d'avoir écouté ce journal, la météo, dans un instant.